Nous sommes en avril 2017 et vous écoutez l'épisode 86 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, je vais encore vous présenter nos différentes chroniques. Ce mois-ci, je suis encore en solo parce qu'entre Père Castor qui s'évade de prison et Cyrus qui est dans le monde des rêves, j'ai trouvé personne pour m'accompagner. Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci toujours à la famille Blue pour son don en nature. Et donc, comme je vous le disais, Père Castor est en prison. On commence donc avec les désaventures de Père Castor. On se souvient, le mois dernier, il nous disait qu'il aimait tuer les gens dans son auberge sanglante et les enterrer ensuite. Bah, je crois bien qu'il s'est fait arrêter parce que sa chronique de ce mois-ci, il nous l'a fait en direct de Alcatraz. On va donc écouter Père Castor en prison.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui se classe à la 1913e place au classement BGG, mais à la 351e place au classement des jeux à thématique forte. Imaginez que vous êtes un honnête citoyen qui a été condamné à tort à perpétuité et vous allez tenter de vous soustraire à l'injustice dont vous êtes la victime en tentant de vous évader d'Alcatraz. Alcatraz, le bouc émissaire, est un jeu de Rafal Sivicic, Christophe Sivicic et Christophe Anuch. La version franco-anglaise est éditée par Zedman Philosophia. Le jeu est jouable de 3 à 4 joueurs, mais la meilleure configuration est celle de 4 joueurs. Le but du jeu va donc être de monter un plan d'évasion qui va être composé de 6 étapes. Et dès qu'un groupe de joueurs aura collégialement rassemblé les 6 étapes du plan d'évasion, ils pourront prendre la poudre d'escampette en abandonnant derrière eux un joueur qui reste enfermé sous les verrous. La mécanique du jeu propose donc une coopération alternative, avec la spécificité, c'est que soit tout le monde perd la partie, si les prisonniers n'ont pas réussi à monter leur plan d'évasion durant le nombre de tours impartis, ou alors un sous-groupe de joueurs va réussir à s'évader en laissant derrière eux un prisonnier, qui sera le seul à perdre la partie. Donc là vous imaginez directement que le jeu propose en arrière-plan énormément de méta-jeux. On va avoir des débats très animés, on va avoir de la trahison, des promesses, des réconciliations, des retrahisons, des re-réconciliations. À chaque tour, on ne sait jamais à qui faire confiance et on ne sait pas qui va nous faire confiance non plus. Alors comment ça va se passer? À chaque tour, on va élire le bouc émissaire. Généralement, on va élire le joueur qui est le moins utile pour la préparation du plan d'évasion. Donc il faut essayer systématiquement d'être indispensable, soit en ayant déjà validé une des étapes du plan, soit en fournissant les objets nécessaires ou en ayant les ressources pour participer à l'élaboration d'une des étapes du plan d'évasion. Si on se retrouve inutile, on risque d'être élu bouc émissaire par les autres joueurs et de ne pas pouvoir participer à la confection d'une des étapes du plan. À chaque tour, en commençant par le bouc émissaire, les joueurs vont pouvoir dépenser leurs points d'action pour aller visiter les différents lieux de la prison. On pourra se promener dans 12 lieux typiques que l'on retrouve dans les prisons, comme le parloir, le réfectoire ou encore la cour de promenade. Chaque lieu y permet d'y effectuer des actions spéciales, comme récupérer des objets nécessaires à la confection du plan d'évasion, ou certains lieux permettent de récupérer des ressources comme de l'argent ou de l'endurance. Et les prisonniers devront également faire face à un niveau de menace qui va grandir au fur et à mesure des tours, représenté par un nombre de gardiens qui viennent renforcer les effectifs. Alors si jamais on devient bouc émissaire, pas de panique. D'abord, on aura des points d'action supplémentaires, donc on sera un petit peu plus efficace pour ne plus être réélu le tour suivant. Et en plus, on aura des cartes spécifiques qu'on appelle des cartes chantage que l'on va pouvoir récupérer et jouer uniquement lorsque l'on est bouc émissaire. Et ces cartes chantage sont un peu le bouton rouge qui menace de faire capoter le plan d'évasion. Et on aura souvent tendance à les utiliser comme caution pour ne plus être réélu bouc émissaire au tour suivant. Alors comme tout jeu qui propose de la trahison, de la négociation, le succès d'une partie va beaucoup dépendre du public de joueurs auquel vous le présentez. J'ai souvenir de parties qui n'ont absolument pas marché, au contraire d'autres parties où c'était vraiment très tendu avec des débats très animés. Et il ne faut pas non plus partir dans une approche trop gestion du jeu. Alors j'ai déjà vu des parties où les joueurs s'étaient mis d'accord tous ensemble pour désigner un bouc émissaire qui était volontaire parce que le fait d'être bouc émissaire lui donnait des actions supplémentaires et avec ces actions supplémentaires, c'était la configuration la plus optimisée pour aller récupérer des objets ou des ressources dans le but de réaliser une des étapes du plan lors d'un tour suivant. Et là, c'était un peu une entrave à la thématique du jeu puisque on n'est pas censé vouloir devenir bouc émissaire. Dans la boîte, on retrouve un matériel sommaire, mais tout à fait efficace pour la jouabilité, et des tuiles représentant les différentes salles de la prison avec des graphismes réalistes et relativement sombres qui collent bien à la thématique du jeu. On voit bien qu'on se retrouve pas dans un parc d'attractions et que l'ambiance n'est vraiment pas joyeuse. Pour augmenter la rejouabilité, chaque salle de la prison propose deux variantes de pouvoirs pour augmenter le nombre de configurations de prison que l'on va pouvoir jouer. Alors si vous voulez vous laisser tenter par une mécanique de jeu coopérative alternative originale avec une forte thématique, n'hésitez pas à essayer Alcatraz, le bouc émissaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro, et d'ici là, profitez de la liberté et jouez bien.
Merci Père Castor de nous avoir présenté ton plan pour t'évader d'Alcatraz. On remarque, bah, tu vas finir par y aller en prison, hein, parce que à appeler une chronique top 500 et à mettre que des jeux qui sont pas dans le top 500, c'est attention, hein, la police des thèmes de chronique, t'as à l'œil. Hein. Alors ce jeu-là, moi je l'avais testé à Essen. Bon, c'était pas dans les meilleures conditions. C'était testé le dimanche soir. Le dernier jour de salon, ils avaient presque tout remballé et on a dit ah tiens, on voulait quand même le tester celui-là, et on était avec Madame Schutz et le démonstrateur de secours, parce que tous les démonstrateurs de l'éditeur polonais qui avait édité ce jeu en premier, c'est Kuznia Gear. Pas facile à dire, je suis pas très doué en polonais. Donc les démonstrateurs qui parlaient bien anglais étaient partis, donc les explications de règles étaient un peu difficiles. En plus, on était fatigués. Et du coup, j'avais pas forcément accroché. Je me dis qu'en fait, les jeux comme ça d'ambiance, faut peut-être un peu éviter à Essen sur les salons. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour les tester. Enfin, on y reviendra un peu plus tard. On continue donc avec Cyrus, toujours dans le monde des rêves, après le mysterium un peu onirique de Libellude, il nous amène dans le labyrinthe d'Onirim sur iOS, donc on va l'écouter, à tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Onirim. Onirim est un jeu de Shadi Torbe, édité pour la première fois en 2010 chez Philosophia. Le jeu est illustré de façon très onirique par Élisée Plessis, et je ne doute pas que les illustrations ont participé au succès du jeu. Onirim est d'abord sorti dans une boîte au format kangourou pour se voir ensuite offrir un régime hyper protéiné qui a vu sa boîte quadruplée de volume et son prix doublé. Onirim, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs. Oui, vous avez bien entendu, de 1 à 2 joueurs. Sa particularité, c'est justement d'être à la base prévu comme un jeu solo. Le jeu va vous plonger au pays des songes, où se mêlent rêve et cauchemar. Vous êtes au milieu d'un labyrinthe, et pour en sortir, il va falloir trouver les 8 portes qui vont vous permettre d'échapper à ce labyrinthe. Le mécanisme du jeu est assez simple, vous avez des cartes en main. À chaque tour de jeu, vous allez pouvoir en jouer une ou en défausser une. Dans le jeu, il y a 4 couleurs de cartes différentes, et dans chacune de ces couleurs, il y a 3 symboles différents. Pour pouvoir jouer une carte à la suite d'une autre, il faut que le symbole soit différent de celui de la carte précédente. Et pour trouver une porte, il suffit d'enchaîner 3 cartes d'une même couleur. Ce jeu est donc une sorte de réussite améliorée. Le jeu bénéficie de tout un tas d'extensions qui sont incluses dans le jeu de base. Alors il y avait 3 extensions pour la première version, et la deuxième version, dont je me suis ironiquement moqué en disant que son prix avait doublé, bénéficie de 7 extensions. Onirim a également donné naissance à une gamme complète de jeux dans un univers appelé l'Onivers. Tous ces jeux sont des jeux de Shadi Torbe qui ont tous cette particularité de jouer de 1 à 2 joueurs, et ils sont tous illustrés par Élise Plessis. Je vais donc maintenant vous parler du portage. Le portage a été assuré initialement par F2Z Digital et a donc été repris au compte d'Asmodee Digital. Le jeu est sorti en avril 2017 simultanément sur Android et iOS au prix de lancement de 99 centimes. En ce qui me concerne, je vous parlerai ici de la version iOS, qui est donc la seule que j'ai testée. Parlons donc de la prise en main du jeu. Le jeu est disponible en 5 langues, dont le français, on commence bien. On trouve bien les règles telles qu'on les trouverait sur un format papier, avec un menu interactif qui permet d'accéder directement au chapitre recherché. On a également un tutoriel qui est plutôt bien fait. Le tutoriel va guider le joueur dans sa première partie. Il va lui expliquer l'objectif du jeu et tous les points de règles. Il va également livrer quelques astuces, en tout cas quelques précautions à prendre dans le jeu. On remarquera également rapidement que les graphismes reprennent les graphismes du jeu physique, et plus précisément ceux de la seconde version pour laquelle les pictogrammes ont légèrement changé. En ce qui concerne les modes de jeu, alors là, on a le minimum syndical. En fait, seul le mode solo a été implémenté, et il n'y a aucun moyen de régler le niveau de difficulté. Alors ce qui est pour le coup fidèle au jeu original, hein, puisque dans le jeu original, on a bien 8 portes à trouver, on a bien 10 cauchemars dans la pioche qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Je trouve un peu dommage qu'ils aient pas joué justement par exemple sur le nombre de cauchemars, soit pour simplifier, on aurait pu réduire à 9, soit pour augmenter la difficulté ou arriver à 11. Quant au fait qu'on ne puisse pas jouer à 2, alors là, c'est très dommage parce que n'en déplaise aux utilisateurs de BGG qui préconisent le mode solo, personnellement je préfère la version à 2 joueurs qui est un cran au-dessus en termes de difficulté. Et oui, parce que personnellement, je trouve que le mode solo est assez facile. Pour avoir joué une bonne douzaine de parties sur l'application, j'ai perdu 2 parties. Et encore, c'est des parties que j'ai jouées. C'est des parties que j'ai jouées un petit peu par-dessus la jambe. À partir du moment, en fait, où on suit un petit peu les probabilités de sortie des cartes, on peut assez facilement gagner. Après, il y a un facteur hasard avec la pioche. Il y a des cartes qu'on peut attendre qui vont enfreindre toute probabilité et ne pas tomber. Ça peut arriver, évidemment. Mais voilà, le mode de difficulté en mode solo est, pour moi, assez insuffisant. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, on a la possibilité de voir ses stats. Donc de voir le nombre de parties qu'on a gagnées sur le nombre de parties jouées. Et également savoir combien de cartes au maximum il doit rester dans le paquet. Là pour le coup, cette partie-là est assez dépendante du hasard. Il est possible de réinitialiser ses statistiques. Bah oui, quand on a un peu trop perdu, on peut réinitialiser et faire style « Ah non, c'est... regardez, j'ai 100% de 100% de réussite ». Je passerai ensuite pour tout ce qui est réglage des effets sonores, de la musique, les crédits qui sont toujours au rendez-vous. Je passerai aussi sur la pub qui est malgré tout cachée dans un bouton intitulé « Plus de jeux ». Je vous parlerai maintenant de l'ergonomie que je trouve plutôt réussie. L'application demande de valider ses actions, ce qui est plutôt une bonne chose car le jeu demande à être quand même assez vigilant et une erreur peut être assez fatale. Un reproche malgré tout, c'est que l'application ne propose pas une vue rapide des cartes restantes dans la pioche. Alors vous avez compris, je joue avec les probabilités, et c'est assez pénible de devoir compter sans arrêt les cartes jouées, les cartes qu'on a en main, plus celles qu'on a défaussées pour savoir si il reste une lune bleue dans cette pioche. Ouais, et voilà quoi. Alors j'ai pas parlé de la musique. Il se trouve que si elle retranscrit assez bien l'ambiance assez pesante que veut retransmettre le jeu, je la trouve assez horripilante. Je l'ai quand même assez rapidement coupée. Pour finir, de façon synthétique, on va regretter donc l'absence du mode à deux joueurs, le fait qu'il n'y ait pas les extensions incluses dans cette application, ni disponibles pour le moment en tout cas, qu'on n'a pas de niveau de difficulté variable. Pour autant, on a un jeu qui assure le nécessaire et qui se prête tout à fait bien à un portage. En plus, pour un prix réduit, donc 99 centimes, alors je rappelle que c'est le prix de lancement, donc si vous m'écoutez assez rapidement, étant donné que je chronique en fin du mois d'avril, le jeu est sorti début avril, pour le moment il est encore à ce tarif-là, alors j'enregistre cette chronique. Et si vous le voyez à ce tarif-là, jetez-vous dessus. Moi, je le recommande aux amateurs de jeux solo en particulier. Le jeu, comme je l'ai dit, est très bon. Il n'y a plus qu'à espérer que Asmodée va développer les différentes extensions qui apportent des choses, qui permettent de varier les plaisirs dans le jeu. Pour ceux qui auront aimé cette version, je ne peux que vous recommander d'essayer de vous dégoter la version physique du jeu pour essayer la variante à deux joueurs, qui est diablement plus complexe. Malheureusement, le jeu n'est plus disponible chez Philibert, il va donc falloir faire preuve de patience ou aller vous tourner vers la ludothèque la plus proche de chez vous. Voilà pour mon avis. En ce qui concerne les extensions, il se trouve que la question a été posée à Asmodée Digital après, juste après la sortie, le lendemain de la sortie, Et ils ont répondu que pour l'instant ils n'avaient pas de plan là-dessus, que rien n'était prévu. Pour autant, quand on regarde le menu qui permet d'accéder aux règles du jeu, on se rend compte qu'il est bien indiqué jeu de base. Voilà, il y a un bouton à l'intérieur de ce menu, jeu de base, et il n'y a pas d'autres boutons. Donc en tout cas ils ont clairement laissé la porte ouverte à la possibilité d'implémenter ces extensions. À voir maintenant si le succès sera au rendez-vous et si il justifiera l'implémentation de ces extensions. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette application. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, même sur tablette, jouez bien!
Merci Cyrus pour cette review sur l'adaptation iOS de Onirim. Donc on vous envoie vers l'Apple Store. Pour continuer, on va continuer avec Courju. Sa chronique, ça va trancher. Alors il va trancher du papier. Alors dans son jeu dont il nous parle, Pencil Park, un jeu où il faut du papier, du stylo et des dés pour faire une ville avec différents bâtiments. On va l'écouter nous présenter Pencil Park.
Clic, ploc, clic, ploc, clic, ploc. Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous ai prévenu, ça va trancher.
Salut les joueurs, salut les joueuses, ici Courju. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu nommé Pencil Park. Pencil Park est un jeu de Daniel Solis pour 1 à N joueurs. Il s'agit d'un jeu qui n'est pas encore édité, qui le sera peut-être, et dont l'auteur a partagé les fichiers sur Twitter. Pencil Park est un jeu, comme son nom l'indique, qui se joue avec des feuilles de papier, un crayon et quelques dés. Chaque joueur dispose d'une carte au format d'une carte à jouer, qui est en fait une grille de cases, de 5 cases sur 7 cases. Toutes les cases sont blanches, sauf 4 cases. Et bien sûr, c'est la disposition de ces 4 cases qui va différencier le scénario, on va dire, d'un joueur par rapport au scénario d'un autre joueur. Tous les joueurs jouent en même temps avec la même combinaison de dés. On lance 3 dés. L'un de ces dés doit être utilisé pour représenter géographiquement la disposition des bâtiments que l'on va construire. Donc, par exemple, si on a un 4, on va créer le même bâtiment sur 4 cases en forme de carré. Si on a un 3, on va créer le même bâtiment sur 3 cases disposées en diagonale, etc. Le 5 est bien sûr la combinaison la plus difficile à placer, puisque au total, le 5 il occupe 9 cases, dont les 4 coins et la case centrale sont utilisés. Donc parmi les 3 dés, on en choisit un qui représentera la disposition géographique des bâtiments que l'on va construire. Les deux autres sont additionnés et représente le type de bâtiment que l'on va construire. Donc vous l'aurez compris, comme dans Quadropolis, c'est le choix du type de bâtiment et le choix du positionnement de ce bâtiment qui vont être importants dans ce jeu. Donc il existe 6 types de bâtiments différents, avec à chaque fois un système différent pour le scoring à la fin de la partie. On joue ainsi jusqu'à ce que le joueur ne puisse pas choisir une combinaison ou ne veuille pas choisir une combinaison. Dans ce cas-là, il va devoir écrire une croix, un X, dans l'une des cases de sa carte, et il peut avoir jusqu'à 3 X comme ça. Si il a déjà inscrit 3 X, il doit utiliser le lancer, et s'il ne peut pas, la partie s'arrête pour lui. Les types de bâtiments. Donc, si on fait un 2 ou un 12, on a un monument. Un monument, le score, ça sera de 4 points pour chaque groupe de bâtiments. Donc on va essayer d'avoir des monuments qui sont éloignés les uns des autres. Si on fait un 4 ou un 10, on a un bâtiment industriel. On va marquer 2 points pour chaque bâtiment industriel du groupe de bâtiments adjacents, du groupe de bâtiments industriels adjacents le plus grand. Et on va marquer 2 points négatifs pour chaque bâtiment industriel hors de ce groupe. Donc là, par opposition au monument, on va essayer d'avoir tous nos bâtiments industriels regroupés en un seul endroit. Si on fait un 7, on va avoir un résident, un petit bonhomme. Donc on dessine un rond. Pour l'instant, il est triste. On peut avoir autant de ronds que l'on veut sur sa carte, mais ils valent 0 points. Si on fait un 3 ou un 11, c'est un bâtiment civil. Quand on fait des bâtiments civils, on les met où on veut sur la carte, et à la fin de la partie, chaque bâtiment civil rendra l'un des résidents heureux, et celui-ci marquera alors 5 points. Donc, on va essayer d'avoir au moins autant de bâtiments civils que de résidents. Si on fait un 6 ou un 8, on va construire un bâtiment commercial. On va marquer 3 points pour chaque groupe de bâtiments commerciaux qui ont une taille distincte. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de 1, deux groupes de 2 et un groupe de 3, ben en fait, on ne va scorer que l'un de deux groupes de 2. Et donc, vous marquerez 3 fois 3 points, c'est-à-dire 9 points. Et enfin, si on fait un 5 ou un 9, on va placer un parc. Et les parcs vont être adjacents, vont devoir être adjacents à une case inoccupée ou une case bleue, c'est les fameuses 4 cases qui sont disposées dès le début, ou idéalement adjacents à la fois à une des cases bleues et à une case inoccupée. Et donc le parc pourra marquer entre 1 et 3 points selon sa disposition. Le jeu se déroule donc ainsi jusqu'à ce que les joueurs ne puissent plus jouer. On fait le calcul des scores et tout simplement le joueur ayant le score le plus élevé est gagnant. Sur le fichier qui est fourni, c'est un fichier qui est recto verso. D'un côté, vous avez les règles de jeu. De l'autre côté, vous avez 9 scénarios différents, 9 villes différentes, avec les 4 lacs, les 4 cases bleues disposées différemment. Donc évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'en imprimer 4 ou 5. Comme ça, vous pouvez jouer avec autant de joueurs que vous voulez. Vous pouvez rejouer plusieurs fois. Vous pouvez jouer à deux joueurs sur le même scénario pour vraiment essayer de faire la meilleure combinaison possible. Voilà, donc Pencil Park fait partie de ces petits jeux très simples, à la fois à créer, à expliquer et à jouer, mais n'en demeure pas moins très intéressant, très stratégique, comme certains autres jeux de cette catégorie, par exemple Quix ou In the Margins. In the Margins, je vous conseille d'y jeter un œil si vous vous intéressez à ce genre de petits jeux rigolos très simples. In the Margins, c'est un jeu dans lequel ils ont rajouté une espèce de petite couche thématique, puisqu'en fait, les joueurs vont créer à l'avance une espèce de labyrinthe, de donjon que les autres joueurs devront affronter. Et la thématique, elle est là juste pour le fun, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien jouer sans aucune thématique, juste avec des lancers de dés, et ça fonctionnerait très bien. Dans la même veine, il y a aussi Decathlon de Rainer Knizia qui est très bien. Donc il y a 12 petits jeux indépendants les uns des autres, et chaque jeu utilise les dés d'une manière différente. Pencil Park, donc un jeu de Daniel Solis, disponible en farfouillant sur le Twitter de l'auteur, ou tout simplement dans les liens des notes de l'émission. Voilà, voilà, maintenant vous savez quoi faire de vos titois, alors jouez bien.
Merci Courju pour cette chronique, et on vous encourage donc à aller tester Pencil Park. Notre nouveau chroniqueur, Sébastien, est revenu en deuxième semaine, donc il a passé haut la main le stade des qualifications, et du coup on l'a intégré dans notre équipe, et donc il nous propose sa deuxième chronique sur le jeu Insider, un jeu de japonais dans lequel il faudra découvrir qui est l'espion. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Voici ma seconde chronique après celle d'encore du mois dernier. Pour ce numéro de Proxy Jeux, j'ai choisi de vous présenter une autre petite boîte, mais venue tout droit du Japon cette fois-ci. Insider, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un jeu d'Akihiro Ito, de Kwaji, de Daishi Okano et de Kito Shinma. Il est illustré, ou plutôt designé, mais nous y reviendrons plus tard, par Jun Sasaki et édité par les petits cochons Doink Games, petite référence à leur logo en forme de groin. Il est disponible chez Philibert au prix de 20€. Insider est un jeu à rôle caché, se jouant de 4 à 8 joueurs. L'un d'entre eux, connu de tous, est le maître du jeu. Tous les autres sont des citoyens lambda, sauf un. Lui, c'est le vil espion, l'insider. Personne ne sait qui est qui, excepté le maître du jeu donc, dont tout le monde connaît l'identité. En début de partie, ce dernier prend connaissance d'un mot tiré au hasard. L'espion fait ensuite de même, avec le même mot, mais secrètement, pendant que tous les autres joueurs ferment les yeux. On retourne ensuite le sablier et la partie commence. Le but de tous les joueurs, et je dis bien tous, maître du jeu et surtout espion y compris, est de découvrir le mot mystère. Pour y parvenir, chacun va pouvoir poser des questions au maître du jeu, qui ne pourra cependant y répondre que par oui, non ou je ne sais pas. Mais quel est donc le rôle de l'espion, vous demandez-vous? Eh bien, ce dernier doit rester le plus discret possible, tout en orientant les autres joueurs avec ses questions, afin que quelqu'un, éventuellement lui-même, donne la bonne réponse. Si personne ne découvre le mot mystère au bout de 5 minutes, tout le monde a perdu. Mais si quelqu'un le trouve, on passe alors au vote. Il faut d'abord voter pour savoir si on pense que le joueur qui a donné la bonne réponse est l'espion. Après d'âpres discussions à base d'arguments plus ou moins convaincants et de mauvaise foi avérés, chacun donne son avis simultanément, puis le joueur dévoile sa véritable identité. S'il s'agit effectivement de l'espion et qu'une majorité de joueurs l'a désigné, il perd la partie. En revanche, si seule une minorité a découvert le poteau rose ou qu'un innocent a été mis au pilori, c'est l'espion qui remporte la partie. Enfin, dans le cas où le joueur qui a découvert le mot secret n'est pas l'espion et que seule une minorité l'a désigné, on passe à un second vote. Là aussi, après avoir discuté et s'être concerté, les joueurs vont cette fois-ci pointer du doigt simultanément celui qu'ils pensent être l'espion. Si une majorité de doigts le désigne, alors il perd. Sinon, il gagne. Et ensuite, on refait une autre partie, car on a adoré la première et que bon sang, cette fois-ci, on va enfin parvenir à retrouver ce satané espion qui se cache parmi nous. Vous l'aurez compris, j'adore tout ou presque dans ce jeu. À commencer par le matériel, dont le design et l'épure typiquement japonais font immédiatement mouche. Insider est du même format que les autres jeux de l'éditeur, comme Deep Sea Adventure par exemple, le plus connu sans doute. Une toute petite boîte, aux illustrations sobres et très graphiques, remplie de matériel. Ce dernier se compose de 42 cartes avec chacune 6 mots mystères, de 8 huiles rôles bien épaisses et du sablier. Le rôle de l'espion est bien évidemment le plus grisant. Arriver à poser les bonnes questions qui vont mettre les autres sur la voie, sans non plus se trahir, n'est pas toujours un exercice aisé. On peut aussi bluffer et mettre carrément les pieds dans le plat, en donnant soi-même la bonne réponse, voire pourquoi pas très tôt dans la partie même, en expliquant plus tard que c'est logique, si on avait été l'espion, on n'aurait sûrement pas joué aussi mal, et qu'on se serait fait repérer Fissa en manœuvrant de la sorte, et donc qu'évidemment l'espion est quelqu'un d'autre. Il doit également prêter attention au temps qui défile. En effet, une question miraculeuse sortie de nulle part, qui débloque tout mais qui arrive à quelques secondes de la fin du sablier, va forcément paraître suspecte. Jouer un citoyen lambda est plaisant également. On se creuse la tête à trouver des questions faisant avancer le schmilblick, tout en se concentrant sur les questions posées par les autres joueurs pour essayer de deviner qui pourrait être l'espion. Le rôle du maître du jeu peut sembler plutôt inintéressant de prime abord, mais ce n'est pas le cas. Il faut toujours jauger ses réponses pour ne pas mettre les autres sur une mauvaise piste. Et parfois on se retrouve à répondre « je ne sais pas », tout simplement parce que oui ou non aurait été trop direct, trop tranché. Et parfois tout simplement parce que, réellement, on ne sait pas répondre. Certains joueurs préfèrent et insistent pour endosser ce rôle. Il est idéal pour les plus réservés ou les moins à l'aise à défendre leur point de vue pendant la phase de vote. Ces derniers, comme pour tous les jeux à rôle caché, vous demanderont un peu de bagou, de jugeote et de déduction pour essayer de faire le tri entre celui qui ment et les autres, ou pour passer au travers des mailles du filet si vous êtes vous-même l'espion. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Insider. Peut-être son prix, qui peut sembler élevé pour une si petite boîte. C'est notamment dû au fait qu'il est directement importé du Japon. Mais très honnêtement, si vous accrochez autant que moi au jeu, et, même si je déteste cette expression quand on la rapporte à notre passion, vous allez largement rentabiliser votre investissement, croyez-moi. C'est donc un faux reproche. Peut-être aussi le fait que la boîte indique qu'il est possible d'y jouer dès 4 joueurs. Certes, cela fonctionne, mais ce n'est pas forcément la configuration la plus intéressante. Je vous conseille plutôt d'y jouer à 5, 6 ou 7. À 8, cela devient vraiment difficile d'identifier l'espion, mais les parties restent tout de même amusantes. En résumé, je vous conseille vivement Insider. Il fonctionne avec tout type de public, aussi bien les joueurs habitués, avant ou après un gros jeu de gestion, qu'entre amis ou en famille, pendant l'apéro ou le dessert, ou pendant la pause déjeuner avec les collègues. En plus, sa petite boîte ne prend pas de place et vous pourrez l'emmener partout avec vous. Si vous avez d'autres jeux de l'éditeur, l'aspect gamme sera du plus bel effet dans votre ludothèque. Et comme les parties sont très rapides, tout au plus 10 minutes, et que la mise en place ne prend que quelques secondes, il y a de fortes chances que vous fassiez plusieurs parties à la suite. Ayant une affection particulière pour les petites boîtes Hank Games, il n'est pas impossible que je chronique d'autres jeux de cette collection dans un prochain numéro de Proxy Jeux. D'ici là, ne vous faites pas repérer, et surtout, jouez bien.
Merci Sébastien pour cette présentation de Insider. Alors quand je disais que il faut éviter les jeux d'ambiance à Essen, j'ai aussi testé ce jeu-là à Essen sur le stand de l'éditeur. D'ailleurs l'éditeur il avait un stand avec des tables aussi grandes que la à l'échelle de ces tailles de boîtes de jeux, donc leur table était toute petite. Et donc on a testé ce jeu. Et malencontreusement, le démonstrateur n'avait pas mis de carte Insider dans le paquet. Et du coup, ça a un peu gâché le jeu, je vous le cache pas. Mais on a vu, son potentiel quand même, quoi. Et donc, ça rejoint ce que Cyrus disait dans notre épisode à Essen, c'est que parfois, on a testé le jeu, c'est pas dans les meilleures conditions. Donc, un avis de retour de salon, c'est pas toujours. On voit bien le potentiel de certains jeux, mais on n'a pas pu faire les parties toujours dans les meilleures conditions, quoi. Mais si vous voulez jouer dans des bonnes conditions, alors je vous propose un festival qui se tiendra bientôt en Alsace. C'est le festival des Bretzels et des Jeux, qui se tiendra à Strasbourg le 3 et 4 juin 2017. Donc c'est de 10h à 19h à la salle de la Bourse, et c'est gratuit. Pour en savoir un peu plus, vous aurez bientôt dans vos oreilles une interview réalisée par Flavien avec Michael de la boutique Philibert, qui est partenaire donc de notre podcast, mais aussi du festival des Bretzels et des Jeux. Vous saurez tout sur le festival. Proxy Jeux aura sûrement un stand sur le festival. On aura un petit coin où vous pourrez venir nous saluer. Il y aura Flavien et moi, je passerai aussi un petit moment sur le salon. Donc si vous voulez nous rencontrer, ce sera là-bas. Voilà, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter par Twitter, sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous. On se retrouve le mois prochain et en attendant, jouez bien !